Ah, ce qu'on est bien là.
Ouais, on est bien.
On allumerait pas la radio?
Ouais.
Bon, on s'écoute Bartas alors, hein?
Ouais.
On s'écoute Bartas?
Décollage pour les matinales de Bartas.
Les matinales de Bartas.
De 8h à 9h
sur le 107FM.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes au joie le mercredi 5 février, il est 8h et avec moi, comme chaque matinale, salut Christophe.
Bonjour auditrices et auditeurs.
Et puis, exceptionnellement, celle qui n'a le droit de rien faire mais accompagner, salut Cléo.
Même pas le café, salut tout le monde.
Si, tu peux le faire, ainsi que le ménage.
À vos risques et périls.
Et puis il est là pour observer, il est en troisième, voilà, il est un peu planqué là-bas dans le fond, en stage technique toute la semaine. Salut Paco, tu peux faire un signe, on t'entend à la radio. Voilà, ça a un grand plaisir.
Il a un grand sourire, ouais, hein, il a l'air d'être content d'être ici.
Et nous, ça nous fait plaisir de t'accueillir, bienvenue pour passer ces quelques jours avec nous. Au programme de cette matinale, tout à l'heure, on écoutera la chronique de François, passe-moi le piment, y a-t-il un problème de stationnement à Florac? Hier, il y en avait un gros de problème de stationnement sur le parking de Supagro.
Qui appartient à Supagro.
Qui appartient à Supagro.
Ouais.
Ouais, on va faire des petites lignes comme ça, tu sais, chacun
pour ça serait bien.
Tout rentrer dans les cases. En dernière partie d'émission, Cléo, t'étais allé rencontrer à Sainte-Croix-Vallée-Française deux membres de l'association Feu Follet. Accueillis par l'assaut de la plante diffuse, ils étaient venus donner un stage d'une semaine pour apprendre aux participants à construire des roquettes stoves. C'est beau. Pour Alambic, on s'écoutera ça tout à l'heure. Et ce que je te propose, Christophe, exceptionnellement, bah, c'est de couper la musique. Voilà. Eh oui, une fois n'est pas coutume, exceptionnellement, pas d'édito, bah non, parce que nous sommes en plateau avec Christophe Fourcade. Bonjour Christophe.
Bonjour à toutes et à tous.
Christophe, tu es chargé de mission pour le Parc National des Cévennes. On te connaît bien ici sur cette antenne, puisque tu es l'instigateur, notamment et pas que, de la fête de la bio, à laquelle on a eu la chance avec Christophe de participer à deux reprises, il me semble. Ça se passe au mois de juin.
Oui, une édition à Saint-Enimy et une édition au château de Florac.
Ou les deux, ouais, enfin en tout cas, ça passe. En tout cas, tu es venu accompagné d'Éric Petiot, bonjour.
Bonjour.
Éric, merci d'être là. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Éric, tu es à Florac parce que tu donnes une formation dont Christophe va nous parler dans un instant et puis que vous avez pris le temps tous les deux de venir nous voir, sachant qu'à 9h, il faut que vous soyez à Saint-Privat-de-Valongues et que vous avez rendez-vous à 9h, non, à 8h30 au parking de l'ancienne gare. Christophe, histoire de contextualiser. Pourquoi avoir fait venir Éric en Lozère?
Ben, tout d'abord, merci de nous accueillir ce matin. Voilà, ça fait 2 ans quand même que le Parc des Cévennes travaille avec ses partenaires sur l'évolution des pratiques. Pour nous, ça constitue un enjeu principal en ce qui concerne à la fois la préservation de l'environnement et la qualité des eaux. Du coup, l'année dernière, dans une dynamique de réseau, un peu avec les maraîchers, on avait exprimé l'idée de travailler un petit peu sur l'utilisation des plantes, et notamment sur l'intérêt d'utiliser les plantes pour soigner les plantes. Donc pour nous, c'était ça coulait de source, si je puis dire, de faire intervenir Éric Petiot. Ça n'a pas été forcément simple de le faire venir jusqu'ici parce qu'il est très sollicité. On s'y est pris à peu près une année à l'avance. On a la chance de l'accueillir au cours de ces 2 jours. Que dire ? Qu'on a eu une première journée avec succès hier, puisqu'il n'y avait pas moins de 60 participants sur l'amphithéâtre de Supagro pour vraiment partager ses connaissances autour de ce thème, les plantes pour soigner les plantes.
Alors justement, Éric, on est ensemble pour une vingtaine de musique, c'est très beau, de minutes. J'ai du mal à commencer cette interview parce que, grosso modo, c'est vrai que c'est Cléo qui m'a un peu présenté qui t'étais, ton travail, etc. Et pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaîtraient pas, Éric, qui es-tu ?
Eh bien déjà, je suis quelqu'un qui a une joie de vivre juste énorme avant de me présenter au travers du métier que je fais, parce que j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas le métier que je fais. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne me définit pas, mais en définitive, j'ai une formation de biologie dans l'arbre urbain, de paysagisme aussi, et puis je me suis spécialisé dans la biochimie végétale. Mais je suis allé suivre des formations plutôt à l'étranger qu'en France, parce que j'ai pas trouvé... chaussures à mon pied, on va dire, en France. Il y a énormément de choses qui sont un petit peu rentrées dans des cadres guides avec une vision unidirectionnelle de l'environnement. Donc j'avais besoin d'aller chercher des perpendiculaires et il fallait aller chercher des allumés qui sont un petit peu à l'étranger. Je les ai trouvés. J'ai été formé par des spécialistes de la physiopathologie de l'arbre et ça m'a permis ensuite de comprendre un petit peu tous les systèmes de défense des plantes, quelles que soient les plantes, de l'arbre urbain aux légumes, à la vigne, aux céréales, etc. quoi.
Alors Cléo m'a soufflé ce mot, elle m'a dit que tu n'allais pas être d'accord, mais elle m'a dit acupuncteur des arbres, c'est possible ?
Alors ça, oui, ça c'est une partie de ce que je mets en place en termes d'expérimentation, parce que j'ai eu cette chance dans mon parcours de croiser Claudine et Vine Lu, donc Vine qui était physicien à la fac de Montpellier, Claudine docteur en pharmacologie, et en 2002, Vine un jour m'a dit « Tu sais Eric, il y a bien plus de méridiens sur une plante que sur un être humain, il n'aurait pas dû ». Et puis je suis rentré à la maison et avec des étudiants, on a mis en place des appareils pour essayer de détecter des méridiens sur des plantes et on en a mis en évidence à peu près une vingtaine, ensuite une trentaine maximum. Il y en a des milliers certainement, mais voilà, on a juste jeté un pavé dans la mare et on a démontré au laboratoire que simplement avec deux aiguilles d'acupuncture, on pouvait maintenir une plante en vie sans arrosage et sans nourriture dans des pots, dans de la terre. Et il y a plein de gens qui sont venus voir ça au labo et dans nos serres. Et on s'est aperçu que tous les témoins étaient morts, mais simplement avec deux aiguilles d'acupuncture, on n'avait plus besoin d'apporter de l'engrais et de l'eau, quoi. Voilà.
Et tu dis aussi que des huiles essentielles, donc pour les arbres, c'est possible.
Alors oui, les huiles essentielles, en fait, c'est un petit peu ce que je considère comme le joker, c'est-à-dire que c'est un concentré de métabolites secondaires, c'est un mot un peu barbare, mais c'est des principes actifs que les plantes utilisent soit pour attirer des pollinisateurs, soit pour lutter contre des indésirables. Et c'est vraiment la partie la plus redoutable, en fait, que les plantes utilisent pour se défendre. Et quand on travaille avec des huiles essentielles, en fait, c'est vraiment pour lutter éventuellement contre des champignons, des insectes. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas une molécule de synthèse chimique qui puisse égaler l'usage des huiles essentielles. Quand ça ne marche pas, c'est qu'on s'est trompé d'huile essentielle, tout simplement, quoi.
Tu nous disais en off, juste avant qu'on rentre dans ce studio, qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas ou plus enseigner en France. Il y a des pratiques aujourd'hui qui sont compliquées à enseigner, justement.
Les prémices et l'origine sont assez complexes, mais à la base, c'est un texte de loi d'orientation agricole nationale français qui a été effectif fin juin 2006 et qui nous condamne à 2 ans de prison, 75 000 euros d'amende, si on transmet verbalement ou si on transmet des pratiques de mode préparatoire non homologué, en fait. C'est comment on se situe en tant qu'être humain par rapport à ça. Si on n'est pas dans le rapport de force et ni dans la dualité, ça m'impacte pas, ce texte de loi. Personnellement, je veux pas jouer les héros, quoi. J'ai eu peur sur le coup quand j'ai eu plusieurs fois les fraudes et convoqué plusieurs fois à Lyon. J'ai eu quand même plusieurs procès. Et maintenant, je m'aperçois que je suis tellement bien dans les lois de la vie, pas dans celles de l'homme, mais dans les lois de la vie, ce qui fait que je me sens très très bien dans mes chaussures, quoi. Donc je continue à transmettre verbalement et la pratique.
Christophe.
Les firmes ont gagné, alors pour le législateur, c'est eux qui ont gagné, qui s'accaparent tout, et le savoir populaire finalement devient hors la loi.
Alors c'est un peu ça, quoi. C'est petit à petit, c'est un petit peu la grenouille qu'on met dans l'eau et on va monter la température. Et ce que je demande aux gens, en fait, c'est pas de tomber dans une forme de paranoïa ou de psychose ou de névrose, c'est juste continuer à garder sa joie de vivre, mais connaître au mieux les textes de loi, les décrets. Pour ça, il y a des associations, comme l'ASPRO PNPP qui vient. Et j'espère qu'un jour, cette association ne durera pas, parce que j'ai pour habitude de dire que toute association qui dure a échoué dans ce pourquoi elle était créée. Mais cette association, pour le moment, elle est vitale, elle est là pour défendre l'usage des préparations naturelles. Et je fais partie de ces gens au sein de l'association, alors il y a des clivages, mais j'entretiens ces clivages, qui défendent l'usage des préparations naturelles sans passer par l'homologation. Parce que ça, c'est des systèmes qui nous figent, ça devient non évolutif. Et puis, c'est pour aussi permettre, justement, faire en sorte que les industriels n'aient pas accès, n'aient pas droit de regard sur nos préparations naturelles. Et malheureusement, il y a des gens qui, en ce moment, sont en train de transmettre notre travail aux politiciens qui sont complètement aliénés à l'industrie, quoi.
Mais ils sont lobbyisés, quoi.
Oui, mais c'est une réalité. On a des politiciennes, des politiciens professionnels et... s'il y a un combat, il est là, mais comme on en discutait avec Christophe hier, moi je combats pas les gens, j'aime les gens profondément, j'essaie d'être le plus sincère par rapport à ça, enfin je suis sincère, mais c'est les entités qu'il faut combattre, c'est voilà, les systèmes en fait. Comme on a des recherches qu'on définit comme publiques et qui ne le sont pas, c'est pas les gens à l'intérieur de ces entités qu'il faut combattre, mais c'est, voilà, c'est les systèmes eux-mêmes, quoi.
Ce qui est étonnant, et Christophe tu peux répondre aussi, c'est que finalement on parle de problème du système, et là t'interviens dans le cadre entre guillemets du Parc National des Cévennes, qui est une institution. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de je sais pas comment dire, mais de problème où le chien se mord la queue, ou comment ça se passe?
Je ne sais pas, je peux peut-être laisser Eric répondre. En ce qui concerne le Parc National des Cévennes, nous, on n'a aucune difficulté à proposer des techniques alternatives. Pour nous, on voit ça comme une lueur d'espoir pour résoudre certaines impasses techniques. On est des gens assez pragmatiques et on se rend compte qu'aujourd'hui, on va droit dans un mur si on continue avec le système dominant actuel.
Eric, c'est plaisant d'intervenir comme ça pour le Parc National, sachant qu'on parle d'une institution étatique.
Bah, c'est juste déjà un bonheur, parce que c'est déjà en dehors du système, on rencontre des êtres humains, quoi, au travers de leur diversité, mais il y a quelque chose qui les réunit, quoi. Je sens vraiment, hier, bah, voilà, y avait du monde, mais il y a une joie de pratiquer un métier. C'est pas des gens, si vous voulez, qui sont aliénés à leur profession, mais il y a quelque chose qui les réunit sincèrement. C'est des amoureux de la terre, quoi. Et voilà, c'est ça qu'on rencontre, quoi.
Alors, on va dire que tu es une référence dans le domaine de la fertilisation du sol, avec notamment le purin d'ortie. Déjà, je ne connaissais pas cette technique, mais elle était utilisée quand même ancestralement. Tu as remis ça au goût du jour, tu as eu des problèmes.
Alors oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invente rien, on découvre la nature. On invente des avions, des ordinateurs, etc. Mais on découvre la nature, et si on sait l'observer, en fait, on s'aperçoit que les anciens avaient cette capacité au travers de l'empirisme expérimental lié à l'observation, le ressenti, ils utilisaient leur sens. Je me suis appuyé sur leur savoir, qui n'était pas forcément livresque, hein, c'était une transmission verbale. Et comme je l'enseigne, hein, il y a une période de l'Antiquité où cette transmission verbale, en fait, elle était condamnée aussi à mort. Donc en fait, il y a vraiment un fil d'Ariane, hein, au travers des interdits, ça nous est pas tombé comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça fait partie de notre existence. Et je me suis appuyé sur ce savoir expérimental et on a essayé d'améliorer les recettes, tout simplement. Et on est bon, la vie n'est pas une compétition, mais on est très bon. On pourrait se passer à 200% des molécules de synthèse chimique. Je travaille avec des céréaliers qui sont en reconversion, qui sont passés de 110 quintaux à 70 quintaux hectares, mais qui ont plus de charge. Les vitis qui étaient à 1 500 € l'hectare, ils sont à peu près à 150 € l'hectare, ils ont plus de charge. Les céréaliers, ils font 980 € d'économie à l'hectare. Ils ont un mois et demi de vacances supplémentaires, mais ils partent pas en vacances. Parce que les vacances, c'est une aliénation, ce truc-là. C'est parce qu'ils sont tellement bien dans leur métier, ils restent sur place, mais ils pensent leur métier maintenant.
On parle de réchauffement climatique. Là, en ce moment, plus de dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet? Là, parce qu'on voit les arbres bourgeonner un tout petit peu, ça fait un peu flipper tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Mais en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement un bouleversement climatique qui est lié à un désordre naturel. Si on va à Chamonix, à une heure de chez moi, il y a un retrait glaciaire, mais qui est au même niveau qu'au Moyen-Âge. D'accord. Et d'ailleurs, ce retrait glaciaire permet justement d'éviter l'échauffement planétaire par rapport à cette capacité thermique au niveau du retrait glaciaire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a une accentuation du dérèglement climatique par rapport à l'usage des molécules de synthèse chimique qui viennent piéger dans l'atmosphère les gouttelettes d'eau en suspension et qui retardent les phénomènes de pluviométrie, ce qu'on appelle les phénomènes de coalescence. Et ça, vous le retrouverez pas dans le rapport du GIEC, c'est juste dramatique. Donc, on crée une psychose par la méconnaissance. Mais j'ai, depuis 25 ans, et c'est pas quelqu'un comme moi qui devrait l'expliquer, ça devrait être justement ces entités scientifiques qui sont complètement aliénées à l'industrie. Et là, je me cache pas, l'INRA, tout ça. Il y a des belles personnes à l'intérieur, mais c'est des gens qui sont devenus des salariés, quoi. Vous comprenez la difficulté du truc. Et là, en fait, par l'usage de ces molécules de synthèse chimique, on vient complètement bouleverser et accélérer le réchauffement climatique, en fait.
Cléo.
Ouais, alors moi, il y a plein de questions que j'aimerais te poser, mais bon, on n'a pas tellement le temps. Moi, j'aimerais savoir, en fait, comment t'en viens à l'idée de te dire, bah, pourquoi pas planter des aiguilles dans un arbre, bon ça tu nous as répondu, mais pourquoi pas aussi perfuser un arbre? Et comment tu arrives à les mettre en pratique en fait? Est-ce que tu fais des tests sur le terrain qui confirment tes idées? Ou est-ce que c'est en laboratoire que ça se passe? Comment t'es appuyé là-dedans?
En fait, ça c'est un peu le paradoxe, c'est que comme je rencontre majoritairement que des belles personnes. Les gens ont tous une beauté intérieure. Et dans les chambres d'agriculture ou dans les associations en bio, c'est bourré d'expérimentatrices et d'expérimentateurs. Donc en fait, je délègue mes protocoles. J'en ai partout sur la planète, en fait. Et c'est ça qui vient nourrir le bien commun, en fait. Donc jamais je me permettrais de mettre en place des expérimentations uniquement chez moi. Ça serait profondément égotique. Donc j'essaye de sensibiliser des gens dans la démarche. Et on met en place des expérimentations aussi bien en perfusion, en acupuncture, en traitement foliaire, un peu partout sur la sur les plantes, si vous voulez, dans l'idée, si vous voulez, de récupérer la substance qui est issue des protocoles d'expérimentation et de les transmettre sous forme de formation. Surtout pas dans l'idée de commercialiser des préparations, quoi. Voilà, surtout pas. Ça nous brûle tellement les mains, tout ça, ce savoir. C'est tellement chaud qu'on a juste une envie. J'en ai la chair de coq, là, c'est de le transmettre, en fait, de transmettre. Et l'idée de planter des aiguilles, c'est simplement parce que, comme tout le monde, je suis allé à l'hôpital, et puis j'ai vu des gens qui étaient perfusés, et puis j'arrive pas à faire la différence entre un arbre et un être humain, quoi. Pour moi, c'est juste des êtres. Et c'est de sujet à sujet, comme disaient les gens dans l'Antiquité, c'est pas de sujet à objet.
Puis on vient de la même chose, en fait, on a les mêmes souches que les végétaux.
Tellement d'analogies. Il y a tellement d'analogies entre une plante et un être humain.
Est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Et finalement, est-ce que c'est possible d'y croire encore?
En fait, prévenir, bien sûr, c'est ce qui devrait complètement... on devrait être aliéné à la prévention presque, si vous voulez. Uniquement dans la vision symptomatique... Tu es un puceron, tu es un acarien, mais on n'est pas en guerre, faut se calmer, quoi. Donc le puceron, il a sa place, c'est juste qu'il faut mettre en des techniques pour pas qu'il y ait trop de pucerons. On a créé le parasitisme, en fait, avec les molécules de synthèse chimique. On a créé la maladie, ce que j'appelle des maladies iatrogènes, en fait, qui sont issues de la molécule de synthèse chimique. On meurt de maladies iatrogènes. Déjà, Francis Chabousseau à l'INRA, dans les années 68, déterminait 80% des maladies dans la vigne étaient issues des molécules de synthèse chimique, en fait. Et c'est pareil pour l'humain.
Christophe.
On a, en avril l'an dernier, on a fait un grand plateau au niveau de l'alimentation et on a invité le maire de Barjac dans le Gard qui nous expliquait que son beau-frère, lui, avait une marque de poireaux endémique de ce territoire. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi la solution contre ces traitements phytosanitaires, c'est-à-dire d'avoir des plantes adaptées à son milieu, voilà, et qui a développé des résistances aux maladies, donc du coup qui n'ont plus besoin de traitements phytosanitaires? Et est-ce que la globalisation, de la commercialisation de vente de graines qui viennent de partout et qu'on va mettre forcément dans nos champs ne sont pas adaptées finalement à nos altitudes, à notre milieu, et du coup, par conséquent, ont besoin d'un traitement phytosanitaire?
Ah, tout est dit, quoi. Et d'ailleurs, c'est le nœud du problème. En fait, on a des variétés anciennes qui ont mis en place toute une structure de défense qu'on appelle par coévolution. Elles connaissent, elles identifient très très bien ce qu'on appelle, nous, les indésirables. Mais j'aurais pas le temps d'expliquer, ce sont juste des indicateurs d'un déséquilibre. J'ai pour l'habitude de dire que la maladie, c'est la matérialisation d'un déséquilibre énergétique. Et toutes ces variétés anciennes ont toute capacité de réguler ce qu'on appelle ces indésirables ou ces parasites, ça c'est des mots avec lesquels j'ai du mal. Et du reste même, vous avez des chercheurs de l'INRA qui repartent dans les pays de l'Est pour aller chercher les gènes des variétés anciennes pour les réintroduire dans les obtentions horticoles ou les cultivars, parce que tout ça, ça part en vrille. Donc ces nouvelles variétés, nous on appelle souvent les nouvelles variétés d'arbres fruitières, par exemple on appelle ça les sous-arbres. Elles ont incapacité de confiner l'agresseur, en fait. Et on est complètement aliéné, comme tu l'as dit, aux produits industriels. Mais ça va de pair, hein. De toute façon, il y a un schéma directeur comme j'ai pour habitude de dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Les nouvelles variétés qui débarquent sont complètement aliénées aux fongicides, aux insecticides qui vont avec. Et c'est un package, si vous voulez. Si vous avez la plante, il vous faut le fongicide et l'insecticide. Et si vous avez toute capacité à aller rechercher les vieilles variétés et travailler avec les préparations naturelles, vous verrez qu'il n'y a aucune aliénation et les rendements sont fabuleux. Mais j'ai l'habitude de dire, voilà, il y a des beaux rendements et sans charge.
Et les goûts aussi, et les odeurs, les couleurs, enfin vraiment, les variétés anciennes, non seulement elles sont plus résistantes, mais en plus, il y a voilà, un plaisir de tous nos sens, quoi, à cultiver et à consommer après ces variétés-là. Enfin...
C'est là où il faut redéfinir ce qu'est véritablement l'agriculture naturelle. Mmh. Si je vais acheter ça dans les grandes surfaces, où souvent les légumes sont passés au rayon X, sont dévitaminisés, là on parle pas de bio, là. Ou alors c'est un bio-industriel. Mais c'est
tout entouré de plastique.
Mais oui, bien sûr, mais ça c'est une forme de délire. Et là, il faut pas tomber dans les habitudes. C'est pour ça que je demande aux gens de rompre avec eux-mêmes, en fait, c'est-à-dire rompre avec leurs habitudes. Il faut sortir de sa bulle de confort, en fait. Et c'est ça, la vie. C'est ça qui fait que la vie est passionnante. C'est si vous sortez de votre bulle de confort et vous retournez au marché, dans les petites surfaces, dans les petits magasins biologiques, redonner du sens à sa vie, en fait, c'est pas se déculpabiliser en allant à Carrefour en achetant du bio, quoi. C'est, ça n'a aucun sens.
Ça veut dire que tous les labels, etc., il n'y a aucun sens à ça ?
Bah souvent c'est bourré d'arnaques, quoi. Je pense qu'on peut même sortir du label, et le label pour moi c'est une façon transitoire qui révèle une histoire de militant, si vous voulez. Mais comme dans tout système, on est récupéré, si vous voulez. Si vous regardez les mouvements somosistes au Nicaragua, vous avez des grands mouvements révolutionnaires, tous ces gens ont été rachetés, les grands leaders ont été rachetés. Et c'est comme ça dans l'histoire, il faut avoir la capacité de sortir de ce que l'on a créé à la base, quoi. Et donc ces labels, normalement, devraient voler en éclats pour recréer autre chose. On est dans un non-advenu, créer quelque chose qui n'existe pas, en fait. Ça nous pousse à la création, en fait.
Quand tu vois, hier, il y avait 60 personnes en formation, c'est ça, Christophe ? 60, enfin, je veux dire, il y a quand même énormément de raison d'y croire, Eric.
Alors, excuse-moi, j'avais un blanc, là. Je pensais que Christophe allait répondre.
Je disais, quand tu vois qu'il y a t'as 60 personnes comme ça, ouais, en formation, ouais, ouais. Et voilà, les formations que tu donnes, etc., il y a énormément de raisons d'y croire.
Alors, en fait, je fais partie de ces gens qui ressentent, qui observent. J'ai pas envie de croire, si tu veux, quoi. Parce que, pour moi, croire, c'est la dualité. On nous a enseigné à croire ou ne pas croire. Et j'ai pas envie d'être coupé en deux. Hier, j'ai croisé des gens qui sont juste dans une démarche. Ils essayent pas, ils sont dedans. Tu comprends ? Ils n'ont pas besoin d'essayer, ils sont dans la démarche. Et en fait, ces gens-là, en fait, sont des purs et durs, mais qui ont tellement compris de choses, parce qu'ils sont complètement ancrés dans la terre. Ils viennent juste chercher des informations pour mettre un petit coup de cric. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, quoi. Je ne sais même pas mettre des mots par rapport à ça, parce que ces gens-là m'éduquent profondément, quoi.
On a encore le temps, vas-y Christophe.
Est-ce que tu as déjà rencontré cet agriculteur sur les coteaux de l'Odève, dans l'Hérault, qui a réussi, qui a obtenu un terrain il y a une trentaine d'années sans point d'eau et qui a réussi à adapter ses plants de tomates, ses plants de courgettes, ses salades à un sol calcaire relativement pauvre et sans eau. Et il obtient des rendements assez fabuleux. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de personnes et est-ce que tu t'inspires de leur expérience ?
Bah voilà encore ce qu'on peut appeler des allumés, parce qu'au regard d'une société qui est plongée dans les habitudes, ça nous paraît complètement fou. Mais bien sûr que ça existe. Nous, on le fait de manière expérimentale, où on a mis en place des techniques qui permettent de ne pas arroser ou de peu arroser. Avec des matériaux naturels qui sont pas exogènes. Mais oui, bien sûr, on s'aperçoit que toutes ces techniques-là existent et on peut le faire sur des hectares. C'est juste qu'il faut se réapproprier un regard en termes d'agriculture naturelle et pas tomber dans un piège en raccourci avec du NPK, des fongicides, des insecticides. Pour moi, ça, c'est pas l'agriculture. C'est une aliénation à l'industrie. Je me répète un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment de se réapproprier un regard. Donc c'est ça la connaissance, c'est se faire confiance. Personne n'a à décider pour vous, vous êtes votre propre véhicule et vous roulez pour vous-même, quoi.
Et est-ce que le monde agricole est capable de se réinventer, alors ?
Mais oui, bien sûr, il suffit d'observer. Malheureusement, si vous voulez, quand quelque chose fonctionne bien, on a toute incapacité à se remettre en question. Et là, je vois que quand les gens sont arrivés dans un mur, et là, je vis une aventure passionnante. J'ai plein de céréaliers en conventionnel qui opèrent une reconversion sur 300, 400 hectares. Ouais, c'est des gentlemen farmers, souvent, ces gens-là. Mais ça reste quand même des enfants à l'intérieur. Ils sont pas complètement ratés. Hein, je dis souvent qu'un adulte raté, c'est celui qui a perdu l'enfant intérieur. Mmh. Ils ont encore l'enfant intérieur. Ils sont capables d'opérer cette reconversion parce que la vie est un jeu. Et une fois qu'ils ont compris ça, ces gens-là, bah, ils font 20 000, 30 000 litres d'extrait fermenté par an, tellement ça marche bien, dans ce qu'on appelait le purin d'ortie, le purin de consommation. Et ils en donnent partout. Et ils ont des rendements à faire pâlir. Donc c'est jouable, c'est complètement jouable. C'est juste qu'il faut accepter de quitter l'aliénation, quoi.
À quelques minutes de vous laisser partir, c'est bien dommage. On passerait bien encore une heure ensemble. Christophe, vous allez chez Samuel et Nathalie pour continuer la formation à Saint-Privat-de-Vallon. Qui sont-ils et pourquoi aller là-bas ?
Alors du coup, on a longuement discuté avec Eric. Au début, ça l'a un petit peu bouleversé, enfin secoué, on va dire. L'idée d'aller sur le terrain cet après-midi. L'intérêt, c'est effectivement de développer un petit peu toute la partie théorique qu'on aura développée au cours de cette matinée, et puis d'hier également, et notamment d'effectuer un certain nombre de mesures. Puisqu'on a parlé aussi d'agriculture énergétique, on parle beaucoup de chimie ce matin, mais on a parlé beaucoup d'agriculture énergétique et ça sera le moment de partager tout ça ensemble.
Eric, on peut te contacter si on veut faire une formation, voilà, si j'ai bien compris, un an avant, deux ans avant.
Oui, au grand malheur, c'est bien sûr, j'aimerais... Enfin, j'essaye de me détacher de ce que je fais, je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de faire comprendre aux gens et non pas les convaincre. Et j'ai un grand rêve, mais c'est chiant de rêver, je trouve. Il faut plutôt passer à l'action, parce que boire une bière en rêve, je le dis, c'est super chiant.
Donc, c'est agréable aussi.
Mais ouais, bien sûr. Mais t'imagines, si on avait juste à rêver la bière, on serait tout le temps bourré.
On pourrait avoir l'ivresse.
Mais voilà, j'aimerais bien un jour, et j'ai commencé à former des formatrices et des formateurs pour. Il n'y a aucune prétention d'aller plus vite, mais je me sens un peu dépassé par rapport à tout ça. Donc j'aimerais beaucoup que des gens s'engagent dans l'idée de former des gens, parce que ça ne m'appartient pas tout ça.
Voilà. Christophe, merci. C'est toujours un plaisir.
Merci à vous.
De te recevoir sur cette antenne. Eric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir vraiment passé ce petit moment avec nous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et j'aurais appris, malheureusement, qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Pourtant, je vous assure.
Je te l'avais dit, hein.
Je vous assure, j'y croyais, mais non. Dans un instant, on retrouve la chronique de François. Passe-moi le piment et un reportage de Cléo. Mais on écoute d'abord Brand New Shows de Sweet Like an Ape. Go. Mercredi, et comme tous les mois, nous sommes avec François. Salut François.
Bonjour.
Et passe-moi le piment. Et ce matin, nous philosophons sur les problèmes de stationnement à Florac, François.
Quel problème de stationnement, Ben? Tu m'auras mal compris. Florac, à l'inverse de la plupart des villes de France, fait la part belle à la voiture. Pas une seule zone piétonne, mais des parkings en veux-tu, en voilà. Un immense emplacement à la gare, un autre à la place François Mitterrand. Aucune rue n'est interdite au stationnement, même pas la rue Lambert où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, même pas l'esplanade. Un parking aussi devant et derrière la Genette Verte, tout au long de l'avenue Jean Monestier, sur le parvis de l'église, derrière l'église, autour du monument aux morts. Notons, entre parenthèses, que nous sommes un des rares villages de France à autoriser le stationnement sur le parvis d'une église ou autour d'un monument de mémoire. Voyons le contre-exemple d'Ispagnac. À Florac, dès qu'un bout de terrain se trouve disponible, au lieu d'y planter un arbre et d'y installer un banc, on crée un parking. Exemple typique devant la fontaine de Brioude, la seule source naturelle de Florac. Un âne ne pourrait aller s'y abreuver. Quant à la place de la mairie, pensez à l'origine comme piétonne, elle est toujours encombrée de voitures.
Mais alors de quel problème tu parles ?
À Florac, on ne constate pas de problème de stationnement, mais des problèmes de stationneurs. Certains Floracois souhaiteraient certainement voir inscrit dans la Constitution le droit de se garer où ils le désirent, particulièrement devant chez eux ou devant la boulangerie ou l'épicerie. Les trottoirs sont constamment occupés par des voitures, interdisant le passage d'un fauteuil roulant ou d'une poussette. Voyez le temple, dont le parvis est pourtant protégé par une ligne jaune, vous y trouverez toujours au moins une voiture en stationnement.
Mais tu estimes qu'il y a pire, François, explique-toi.
Oui, l'un de mes chers amis, Guillaume Martin, facteur de son état, était conseiller municipal chargé de la vie scolaire dans la précédente municipalité. Outre qu'il a incité et participé à organiser à l'école Simone Serrière et à l'école Suzette Aguillon de captivantes expositions sur la Shoah et la Première et Deuxième Guerre mondiale, il a imaginé un parcours sécurisé pour les enfants qui vont en classe, qu'il a appelé le pédibus. Pour cela, il a fait installer des barrières pour protéger les trottoirs au quartier de la Croisette, un passage piéton dédié et des barrières au carrefour qui mène au stade jusqu'aux écoles. Qu'est-il advenu de ces installations ? Eh bien, plusieurs de ces barrières ont été sciées à la base pour permettre à certains de se garer devant chez eux, obligeant les enfants, les handicapés et les poussettes à emprunter la chaussée pour contourner l'obstacle. Mais surtout, une voiture est constamment installée devant le passage piéton dédié, tu l'as constaté comme moi, Ben, permettant à son inconscient propriétaire de se garer au plus près de l'entrée de son immeuble. Enfin, un dernier point, si tu m'y autorises, Ben.
Bien sûr, vas-y.
Si la timide demi-zone piétonne qui interdit en été la circulation sur une moitié de l'esplanade fonctionne bien lorsque circulent de nombreux touristes, pourquoi ne fonctionnerait-elle pas, à plus forte raison, en hiver, lorsque les véhicules sont beaucoup moins nombreux ? Allez, passe-moi le piment, Ben.
Merci, François. dans un mois. Ouais. Alors que c'est la...
S'il nous prête vie, pardi.
C'est la fiesta en studio, je vous assure, c'est la fiesta, voilà. Cléo était allée à Sainte-Croix-Vallée-Française rencontrer deux membres de l'association Feu Follet. Accueillis par l'asso La Plante Diffuse, ils étaient venus donner un stage d'une semaine pour apprendre aux participants à construire des rocket stoves pour Alambic. On écoute ça tout de suite.
L'association Feu Follet, créée en 2015, est composée d'une bande de bricoleurs acharnés et passionnés d'autonomie. J'en ai rencontré deux spécimens en octobre 2019, à l'occasion d'un stage qu'ils proposaient dans le cadre des formations de La Plante Diffuse à Sainte-Croix-Vallée-Française. Une dizaine de personnes réunies pour construire un rocket stove pour leur alambic. Mais qu'est-ce qu'un rocket stove ? Pour vous éclairer, voici un petit morceau de l'explication que l'association a mis en ligne sur le site. Ce terme désigne un principe de combustion qui a été connu dans diverses civilisations antiques, qui a été oublié depuis et redécouvert à la fin du XXe siècle. Le foyer roquette est un réacteur à bois, par tirage naturel. Une technique relativement simple pour obtenir une combustion de très bonne qualité. Le principe de base est d'exploiter avec attention l'effet cheminée en respectant au mieux le triangle du feu. En gros, on fait un feu dans un tube, un feu de cheminée, qu'on appellera cheminée interne. Après avoir pris vos précautions, essayez de placer un tube, n'importe quel matériau non combustible, au ras des flammes d'un feu de camp. Vous entendrez immédiatement l'effet cheminée se déclencher, et vous constaterez que les fumées visibles disparaissent. C'est dans ce tube que se passe la post-combustion, souvent appelée double combustion, la combustion des gaz de bois qui ne sont pas brûlés dans le foyer. Pour faire un poêle roquette, on fait exactement la même chose en optimisant certains paramètres. On fait un petit feu pour contrôler sa taille et sa puissance. On fait attention aux entrées d'air pour apporter de l'oxygène préchauffé au bon endroit. On isole le foyer pour y maintenir une température maximale. On positionne une cheminée à l'endroit où se développent les flammes pour créer un tirage important et assurer l'approvisionnement d'oxygène. Aussi, pour favoriser une bonne post-combustion, on respecte la règle des 3T. Pour un bon mélange entre la combustion et l'oxygène, il faut créer un maximum de turbulence et laisser assez de temps à une température suffisante pour que la réaction se fasse.
Moi je m'appelle Léo, je suis passionné d'autonomie énergétique et l'asso Feu Follet, c'est une asso qui s'occupe de transmettre un savoir-faire et des connaissances pertinentes sur le feu de bois et les roquettes, qui sont une technique qui permet d'avoir une excellente combustion du bois assez facilement. Après, l'usage va varier en fonction des gens et des besoins. Et nous, notre boulot, c'est d'adapter la gestion de chaleur des poêles roquettes pour différents usages ou besoins.
On fait la construction de l'alambic, du foyer de l'alambic tout en bidon, en briques réfractaires. Et du coup, moi, là, je fais la partie pour isoler le foyer, l'entrée du foyer où on met le bois, bien sûr. Et du coup, c'est un peu chiant et compliqué parce que c'est couper des bidons, c'est pas du tout stable, c'est super souple. Et quand tu coupes une partie, t'as l'autre qui bouge dans tous les sens. Et en fait, là, le top, c'est de couper le capot, le capot du bidon qui devrait s'encastrer en fait dans un autre bidon. Enfin voilà, c'est des cercles à faire, des scies sauteuses qui peuvent péter, casser des lames, parce que c'est pas toujours évident de suivre une courbe, quoi, voilà. Donc, c'est génial quand même, on s'amuse bien.
Mise en garde. Jouer avec du métal, ça peut être un peu dangereux. Les outils peuvent emporter un, des, doigts, ou yeux, ou se faire une place dans ta cuisse, ton pied, ton thorax. Et c'est pas du tout souhaitable. Et aussi, les bidons encore fermés et ou mal nettoyés, ça a tendance à exploser au premier coup de disqueuse. Donc, te lance pas si tu sais pas utiliser tous les outils. Protège tout ton corps et ceux des gens près de toi. Nettoie tes bidons deux fois avant de les attaquer. Prépare ta trousse à pharmacie avant de commencer. Fais des pauses pendant ton chantier. Évite les substances qui modifient ton état de conscience.
Le but du stage, là, c'était de s'adapter à des distillateurs pour fabriquer des chaudières au feu de bois destinées à chauffer de l'eau dans des alambics, pour de la distillation, du coup.
Et c'est super important, parce qu'une distillation, c'est hyper énergivore, en eau, en chaleur.
Souvent, les applications professionnelles vont être énergivores en quantité, par exemple, même la cuisine. Entre faire à manger pour soi à la maison, on va consommer une bouteille de gaz par an ou deux. Faire à manger pour 150, ça va consommer beaucoup plus. De même qu'une distillation, on fait chauffer des volumes d'eau importants. Du coup, ça va consommer une énergie importante. Si c'est de l'énergie fossile, ça va faire une grosse consommation d'énergie fossile. Et du coup, avec les roquettes, déjà, c'est une énergie bois, donc qui est économique et naturelle et abondante. Avec une optimisation de la combustion, on réduit la quantité consommée. Avec une bonne gestion de chaleur, on va encore réduire la quantité consommée en supprimant aussi la pollution avec une bonne combustion du bois.
Moi, c'est Jean-Christophe, je suis producteur en plantes aromatiques. Je fais partie de Plantes Infuses, mais je suis installé dans l'Hérault. Et sur place, chez moi, j'ai un alambic d'une centaine de litres. Et je suis venu au stage cette semaine pour construire un rocket stove pour chauffer cet alambic. On a alterné théorie chaque jour, une partie théorie puis une partie pratique, hein, direct bidonnerie. Donc conception de chaque appareil sur mesure. Après, au fur et à mesure, on comprenait avec la théorie ce qu'on allait faire en suivant, quoi. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas du tout de soudure. Donc, on travaille que avec... il y a des disqueuses et meuleuses, perceuses, tout ça, ça fait beaucoup de bruit. Mais en tout cas, tous les assemblages se font sans aucune soudure, quoi. Une semaine, c'était déjà hyper dense. Et puis, on a juste le temps de finir notre poêle. C'est génial. On va juste attendre de l'essayer.
C'est pour quand? Tu vas faire quoi?
Il faut attendre une dizaine de jours que l'isolant sèche, l'isolant qui entoure le foyer. Moi, je distillerai, il me reste de la verveine, par exemple, au jardin.
Moi, je fais mon feu dans ma cheminée, je mets mon tirage au minimum le soir avant d'aller me coucher. C'est quoi mon impact écologique, en fait?
Il est important et relativement grave. Grave, tout est relatif, mais si tout le monde fait ça, ça pollue. C'est pour ça qu'ils ont parlé d'interdire le feu de bois en métropole. À savoir qu'un feu qui ne fume pas produit un CO2 qui est dans un circuit fermé, mais un feu qui fume produit en plus du CO2 du circuit fermé beaucoup de gaz toxiques. Il suffit de mettre la tête au-dessus d'un feu de bois, se rendre compte à quel point ça pollue. Et du coup, c'est relativement une catastrophe. Du coup, si on maîtrise pas bien la combustion du bois, ça n'a rien d'écologique. Donc un feu qui fume n'est pas écologique.
Ouais, là, en fait, je suis en train d'enduire un gros bidon d'huile végétale pour après la passer le bidon au chalumeau. C'est en fait pour caloter le bidon, et c'est une protection, en fait.
Et la prochaine étape, c'est quoi?
Après le calotage, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on va essayer de mettre ce bidon en place, voir les découpes à faire. On va le mettre en place pour voir où est-ce qu'on fait les découpes. Et après, il y a encore une structure qui vient dessus.
Ok.
C'est assez énorme, en fait, tout ce qu'il y a à faire.
On dit pas de fumée sans feu, mais du feu sans fumée, ça existe.
Ça existe, c'est relativement facile à faire, c'est juste un principe qui a été redécouvert dans les années 70-80, qui était connu en Grèce antique, Chine antique, Égypte antique, etc. Et on arrive à faire facilement des feux de bois qui fument pas, dont la pollution elle est inférieure aux normes de pollution du gaz, par exemple, qu'on se permet de faire dans des maisons. Du coup, avec ça, on fait des feux qui polluent vraiment très très peu, qui fument pas, il n'y a pas de fumée visible. Et finalement, le concept est tellement simple que c'est pour ça aussi qu'on s'est créé, pour pouvoir diffuser ce concept. Donc on a un site internet et on fait aussi des conférences sur des événements pour expliquer comment le bois brûle. Et finalement, il n'y a personne qui nous apprend ça aujourd'hui dans notre société. C'est un peu, on prêche pas la bonne parole, enfin dans un sens si. Juste de rééduquer ou d'éduquer les gens sur qu'est-ce que c'est que le feu de bois, réussir à faire des feux qui fument pas et pourquoi c'est important. Et du coup, quels en sont les bénéfices, autant d'un point de vue écologique que travail humain, sur le fait qu'on ait moins de boulot. Simplement parce qu'on consomme moins de bois.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Vous êtes hyper, tous les deux, hyper complémentaires, je trouve. Du coup, ça marche vachement bien. Hyper attentionné. Vous répétez 10 000 fois la même chose pour ceux qui comprennent pas. Sans problème.
Non, ça dépend de vous.
Franchement, c'est vraiment super chouette. Le mix entre la théorie, même si des fois c'était un peu lourd, un peu long, et la pratique, c'est hyper important. Moi, je suis hyper lente, j'aurais eu besoin de plus de temps. Genre échauffement, genre
yoga le matin.
Essayer d'utiliser tous les outils avant, mais même pour le faux, quoi, pour dire ah ouais, tiens, ça marche comme ça.
Je trouve ça chouette que vous vous mettiez à notre niveau, au niveau de c'est où qu'on en est, nous, là maintenant, avec ces outils, la bricole et tout. Ça, c'est vraiment sympa. Ça aide, quoi. Ça aide bien. Au niveau matos, moi j'hallucine du volume de matos que vous avez et je trouve qu'au début je me suis dit putain mais il y a énormément de choses quoi. Et en fait on a besoin de tout ça quand on est le nombre qu'on est et c'est pratique je trouve que tu sois pas là trop à sensibilité.
À attendre
toi. Ouais.
Et du coup c'est vrai que quand les gens bah, savent pas utiliser une meuleuse, bah, moi j'ai une satisfaction aussi à démystifier la meuleuse qui fait peur et à accompagner les gens dans l'utilisation de cet outil là. En fait, moins les gens savent bricoler, plus j'ai satisfaction aussi à les accompagner là-dedans.
Tout s'est bien passé, vous êtes super bien organisé, donc du coup on est en confiance directe, on vous regarde, on vous écoute. Après, on vient beaucoup vous demander puisque vous aimez ça et qu'on l'a compris. Donc on le fait presque exprès des fois.
Du coup c'est deux personnes qui ont travaillé dans les années 70 pour améliorer des foyers pour les pays en voie de développement. Et pays subis la catastrophe climatique ou guerre, etc. À savoir que du pétrole et du gazol, on en a partout dans notre planète, surtout là où il y a des guerres. Du coup, en cas de réfugiés climatiques ou réfugiés de guerre, ben du coup, il faut nourrir dans les camps de réfugiés, nourrir beaucoup de monde avec peu de ressources. Du coup, ils ont travaillé sur un concept pour réussir à avoir, un, une bonne combustion du bois, deux, une bonne gestion de chaleur. Avec les roquettes qu'ils ont développées, du coup, ils ont mis un plan en ligne sur Internet. Et avec ces poils-là, on peut amener à ébullition 1 litre d'eau par minute. Du coup, c'est quelque chose qui est très efficace, sur lesquels on peut adapter des marmites qui vont jusqu'à 80 litres, donc pour faire à manger pour beaucoup de gens avec très peu de ressources. Et donc le concept, il est expliqué sur notre site internet, et à partir de là, dans les années 2000, ça s'est diffusé sur internet du coup dans le monde entier, et le Roquette s'est développé partout dans le monde entier finalement, là où les gens cherchent à transformer leur consommation énergétique.
Je vais juste finir avec une petite anecdote qui me touchait avec une autre bénévole qu'on a eu cet été. Il y a quelqu'un qui lui a dit, bah, tiens, t'es un maître du feu. Et lui, il a répondu, non. Si j'étais un maître, tu devrais me vouvoyer, un. Et deux, on ne peut pas maîtriser le feu, on devient tous des gardiens du feu.
Ah voilà, je me réentends. L'excellente Björk dans le film Dancing in the Dark, la Palme d'Or à Cannes, je crois, en 2000 ou 2001. Excellent film, allez le revoir. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a quelques semaines, on avait croisé Christophe Fourcade qui nous avait dit qu'il recevrait Éric Petiot. Et voilà, c'était une magnifique rencontre. Merci à toutes et tous pour vos messages que vous m'avez envoyés. C'est assez rare pour le souligner pendant la matinale. Normalement, je les reçois après. Mais là, à 8h30, je suis sorti du studio, j'avais déjà 5 messages. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci Cléo.
Merci beaucoup.
Merci Christophe.
Avec plaisir.
Et puis Paco qui est derrière, toujours avec ses yeux d'enfant et son sourire qui fait plaisir, ça nous met la patate. On se retrouve lundi, on parlera tout autre chose du festival Contes et Rencontres qui commence le 15 février. D'ailleurs avec le Parc National des Cévennes en partenaire.
C'est les 50 ans. Hein.
Du PNC, ouais, tout à fait. Du Parc National des Cévennes, pardon, autant pour moi. On sera avec Jean-Pierre Allier qui viendra nous en parler. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, profitez-en bien. On espère qu'on vous a mis la patate et plein de sourires. Nous, on en a plein de la patate et des sourires. Profitez-en bien, on se quitte avec Jusqu'à la ceinture de Graham Allwright. C'est ça Cléo ?
Graham Allwright.
Graham Allwright. Et moi je vais reprendre un cours d'anglais pendant que tu reprends un cours de son. Voilà. À lundi, bonne journée à toutes et ciao. Tous. Profitez-en bien, ciao.
1942, alors que j'étais à l'armée. On était en manœuvre dans le Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con dit d'avancer. Sergent dit où mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con dit avancer. Le sergent dit on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonflés. En avait la flotte jusqu'au cou et le vieux con il avançait. Dans la nuit soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort battant. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il voyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux con allait avancer. Morale de cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con d'avancer. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con d'avancer. On avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux con d'avancer.